Vous vous souvenez peut-être, on a fait une pause parce qu'avec les fêtes liturgiques, il y a eu Pentecôte, on a coupé, mais on était en train de lire la deuxième épître à Timothée. Et on arrive à la fin, au chapitre 4, et je reprends la lecture au verset 9. Alors vous pouvez suivre dans vos Bibles, vous pouvez écouter. De Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9. Paul écrit à Timothée, « Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt. Car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Emmène Marc avec toi, car il pourra me rendre service dans ma tâche. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Apporte également les livres, et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera selon ce qu'il a fait. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à notre enseignement. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que le Seigneur ne leur en tienne pas compte. Le Seigneur m'a secouru et il m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et faire entendre à tous ceux qui ne sont pas juifs. Et il m'a délivré de la gueule du loup. Le Seigneur me délivrera encore de tout mal et il me fera entrer sain et sauf dans son règne céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Salut Priscille et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les autres frères et sœurs t'adressent leurs salutations. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Jusqu'ici, notre lecture, c'est ici que s'arrête cette lettre de Paul à Timothée. Et comme toute lettre, elle se termine par des salutations. Paul ne finit pas en disant gros bisous, mais voilà, c'est la salutation finale, l'envoi de cette lettre. Et il parle beaucoup des autres, des connaissances qu'ils ont en commun. Et quand on lit ça, je ne sais pas ce que vous pensez, mais que de noms. Et des gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Depuis quelques semaines, sur mon fil d'actualité, sur mon téléphone mobile, il y a une news qui revient régulièrement. C'est le nouvel épisode de Friends 25 ans après. Je sais pas si vous avez ça aussi, hein, parce que l'actualité, c'est pas la même pour tout le monde. Les téléphones proposent pas la même chose à tout le monde. Moi, ils ont dû estimer que ça, c'était bon pour moi. Une série qui parle de quoi? Qui parle d'amis, qui vivent ensemble. Et il y a eu 10 saisons comme ça, des heures et des heures, que beaucoup, dont je fais partie, j'avoue sans honte, ont dévoré les épisodes pour voir un peu les interactions. Et c'est juste une fiction. Là, on parle de personnes qui sont en interaction. Et alors, c'est pas aussi scénarisé, il n'y a pas les mêmes gags, mais je crois que c'est tout aussi passionnant. Et je vais essayer. Je vais essayer de vous montrer d'expliquer. Qui sont ces noms, d'expliquer qui sont les personnages, comme quand on prend une série en cours, et de voir ce que ça a à nous enseigner, ce que ça nous apprend sur l'œuvre de Dieu, et puis aussi pour nous, quelles questions ça nous pose. Paul décrit là un réseau, le réseau des églises qu'il a fondé, et on retrouve, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on retrouve l'itinéraire, on retrouve aussi ces églises dans les lettres qu'il écrit, hein, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, etc. Et on se rend compte dans ce passage que Paul a construit une équipe. Une équipe missionnaire avec laquelle il a travaillé. Il n'était pas tout seul. Il a construit cette équipe missionnaire et selon les besoins, il les envoie dans telle ou telle église. Et ce passage nous permet de le comprendre. Le message de ce qu'on a lu, c'est « Viens me rejoindre ». Paul écrit à Timothée « Viens me rejoindre, je suis seul, j'ai besoin de toi ». Le chef d'équipe rappelle son collaborateur parce qu'il a besoin de lui, parce qu'il a besoin de lui pour le travail, parce qu'il a aussi besoin de lui affectivement. Il se sent seul. Donc, il rappelle Timothée, mais il contextualise. Pourquoi ? Et comme ça, il dresse un tableau en lançant des noms. Il y a Démas. Démas, il est parti à Thessalonique, une autre ville, et Paul dit qu'il est parti là-bas parce qu'il est trop attaché au monde. C'est dur. Pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas ? Est-ce qu'il est parti travailler dans l'église de Thessalonique qui est plus facile alors que Paul aurait préféré qu'il soit ailleurs ? Est-ce qu'il est allé là-bas parce que la ville est sympa et qu'il a arrêté le ministère, qu'il a arrêté de travailler? On ne sait pas. En tout cas, Paul vit ça comme un abandon. Quelqu'un qui a été attiré par l'attrait du monde. Et ça me fait penser à la parabole du semeur que Jésus compte, cette parabole super importante où le semeur sème dans différents terrains et c'est à force. C'est sur la longueur qu'on voit la qualité du terrain à travers la qualité de la plante produite et du fruit produit. Et parmi ces terrains, il y a ceux où il y a les mauvaises herbes. Et le plant pousse, mais Jésus nous dit, il est étouffé par les soucis du monde et par l'attrait des richesses. Peut-être c'est ça qui a touché Démas, qui, après un temps de service consacré, prend du recul et recherche un peu son confort. Il y a Crescens. Lui, il est parti en Galatie. C'est une église du réseau, hein. Il y a la lettre qui est écrite à Galate. Est-ce qu'il est parti tout seul ou est-ce que Paul l'a envoyé? C'est tout à fait possible que ce soit Paul qui l'a envoyé. Tite, pareil, il est parti en Dalmatie. Tite, on le connaît parce que dans les livres, il y a une lettre qui est adressée à Tite. Deux lettres adressées à Timothée, la première, la deuxième que nous avons étudiée, et une à Tite avec la même teneur, très personnelle, à donner des conseils sur comment il doit faire dans l'Église. Et la lettre, on voit qu'il a été envoyé en Crète pour structurer cette Église, pour lui trouver des responsables. Paul fondait des églises, et puis après, le but, c'était de trouver des responsables locaux, de les former et de partir ailleurs pour fonder d'autres églises. Comme ça, il a été envoyé en Crète. Il a été envoyé aussi à Corinthe, on le voit dans la deuxième aux Corinthiens. Il a été envoyé pour ramasser cette collecte qui tenait tellement à cœur à Paul. Parce qu'il y a eu l'église de Jérusalem qui a souffert de la famine. Et toutes les églises du réseau ont fait des dons pour les soutenir. Ça occupe deux chapitres dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et c'est Tite qui allait là-bas pour récupérer l'argent et l'amener à Jérusalem, l'argent que les Corinthiens avaient récolté. C'est un collaborateur connu, un collaborateur précieux de Paul. Et voilà, je pense qu'il a été envoyé en Dalmatie parce que les églises là-bas avaient besoin de son aide, de la façon dont il structure. Tychique est envoyé à Éphèse, là où doit se trouver Timothée, peut-être pour le remplacer. Alors que Timothée revient voir Paul envoie Tychique. Tychique, c'est quelqu'un qu'on voit, il a déjà été porteur de la lettre aux Éphésiens, porteur de la lettre aux Galates. Les lettres de Paul que nous avons, elles n'étaient pas envoyées par la poste avec un timbre. Elles étaient portées par des personnes qui en faisaient la lecture devant l'assemblée. Et puis, comme ils avaient été avec le rédacteur, ils pouvaient poser, ils pouvaient répondre à des questions s'il y avait besoin de précisions sur des passages des lettres qui étaient pas connus. C'était pas juste des courriers, c'était aussi des gens qui venaient expliquer, des prédicateurs. Il y a Éraste, que Paul a laissé à Corinthe, et puis on le voit avec les lettres à Corinthe, hein, c'est une église remuante, il a toujours fallu laisser des gens pour s'en occuper. Il y a Trophime aussi, qui est un compagnon de Paul et qui est resté à Milet, parce que lui, il est malade. Il ne peut plus continuer à aller sur la route. Il doit se reposer. Et donc, tous ces collaborateurs qui étaient avec Paul, qui étaient dans son équipe, qui étaient des missionnaires, ils allaient ensemble de ville en ville, s'établissaient une église. Et puis, quand il y avait un groupe qui était là, il y en avait qui restaient, un ou deux, et les autres partaient à la ville suivante. On voit ça quand on lit le livre des Actes. Tous ses collaborateurs, alors que Paul est en prison, ont été envoyés, dispatchés un peu partout. Et Paul reste seul, ou presque. Luc est là. Luc, collaborateur fidèle, celui que Paul appelle ailleurs le médecin bien-aimé. Quelqu'un de discret, mais quelqu'un qui a laissé un grand héritage, puisque c'est le rédacteur de l'évangile de Luc et du livre des Actes des Apôtres. Comme quoi, il n'y a pas de la place que pour ceux qui prêchent et qui font du bruit. Il y a de la place aussi pour ceux qui, dans l'ombre, se posent, écrivent. Mais bon, Paul se sent seul. Il a besoin de plus de monde, à la fois pour travailler et à la fois pour le soutenir. Il demande à Timothée de venir. Il demande de venir avec Marc. Et Marc, c'est une belle histoire du Nouveau Testament. Parce que Marc, il s'appelait Jean, surnommé Marc, donc des fois on Jean-Marc, des fois juste Marc, c'est le cousin de Barnabas, un autre personnage du Nouveau Testament, et il est parti en mission avec Paul et Barnabas pour faire le tour de la Méditerranée, comme il faisait, sauf que, sur un voyage, il les a laissés tomber. Il était parti avec eux, on n'a pas de détails, peut-être qu'il a trouvé que c'était trop dur, et il est rentré et il les a laissés tomber. Et ça a été dur à vivre pour Paul, parce que bon, ils ont fini le tour avec Barnabas, ils sont revenus, et quand ils ont voulu repartir, Barnabas a dit bon, on reprend Marc. Et Paul a dit non. Non, il nous a laissé tomber une fois, on le reprend pas. Et du coup, ils se sont accrochés avec Barnabas. Alors qu'ils avaient tellement collaboré, tellement passé de temps ensemble. Barnabas est celui qui avait parrainé Paul pour rentrer dans l'église, alors que tout le monde avait peur de lui, ce persécuteur. Mais là, ils n'ont pas réussi à surmonter ce différend et ils se sont séparés. Le livre des Actes dit que leur conflit a été si intense, leur ressentiment si aigre. C'est très triste comme histoire. Mais là, on se rend compte. Des années après, Paul a besoin de Marc. Et on n'a pas le récit parce que le livre des Actes des Apôtres s'est arrêté, mais on a le témoignage de ce que cette situation n'est pas restée comme ça, de ce qu'il y a eu une forme de réconciliation. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé avec Barnabas, mais en tout cas, avec Marc, Paul le reconnaît. Et Paul a besoin de lui. Et il compte sur lui parce qu'il est apprécié par lui. Et Marc, derrière, il a fait une belle carrière parce que il a été non seulement le collaborateur de Paul, mais aussi celui de Pierre. Et c'est lui qui a rédigé l'évangile de Marc sur le témoignage de Pierre. Comme quoi, des fois, ça marche pas, mais il y a une deuxième chance pour aller plus loin. Il y a aussi Carpus qui est mentionné. Carpus, lui, il est sur la route. Quand Timothée va voir Paul, il va falloir qu'il passe chez Carpus. Carpus, c'est la caverne d'Ali Baba. Il devait avoir une grande maison. Il stocke. Il stocke les livres de Paul, il stocke le manteau de Paul. Paul devait être trop chargé, il a laissé des trucs. Et Troas, c'est un peu au milieu, là, c'est au sud de la Turquie. Donc, quand Timothée revient d'Éphèse, il passe par Troas pour aller voir Paul là où il est en prison. Et ben, il va pouvoir prendre les livres et le manteau dont Paul a besoin. Je trouve ça intéressant. Ce gars-là, on n'en parle qu'ici. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas ce qu'il a témoigné. Il avait de la place, il a accueilli le matériel et il est présent dans la parole de Dieu et il nous stimule aujourd'hui. À Éphèse, avec Timothée, il y a d'autres personnes et il y a Alexandre. Et Alexandre, c'est un personnage plus sombre. Alexandre le forgeron. Et on comprend qu'il y a une grave opposition entre Paul et lui. Paul dit qu'il s'est opposé violemment et qui lui a fait beaucoup de mal. C'est une situation qui l'a fait beaucoup souffrir. Et on peut le croire parce que Paul en parle déjà dans la première lettre à Timothée, et où il dit qu'il l'a voué à Satan, il l'a condamné sans doute publiquement pour dire que c'est pas bien. Et là, des années après, il est toujours dans les parages. Il est toujours à l'église d'Éphèse. Et c'est un poids pour Paul de voir ça. Ça aussi, c'est une réalité de la vie chrétienne. Il y a des conflits qui se règlent et sur lesquels on peut rebondir comme avec Marc, et il y a d'autres situations qui restent pourries et qui restent pesantes, difficiles à vivre. Et je trouve que ce que Paul dit à ce sujet est un modèle. Le Seigneur le traitera selon ce qu'il a fait. C'est dur pour lui, mais je ne prends pas ça pour moi. Le Seigneur traitera. Le Seigneur sait, il arbitrera autant que vous. À Éphèse, il y a aussi Priscille et Aquilas. Ça, c'est des noms qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Priscille et Aquilas, ils ont formé Apollos qui est un enseignant qui a eu un beau ministère en particulier à Corinthe, c'est eux qui l'ont formé. Mais surtout, je pense que Priscille et Aquilas, ils avaient une affaire florissante. Ils faisaient pas mal d'argent dans leur business où ils fabriquaient des tentes parce que ils étaient à Rome où ils étaient établis et ils ont été chassés de là. On les retrouve à Corinthe où ils se sont établis. Et puis là, on les retrouve à Éphèse où ils ont une maison suffisamment grande pour accueillir l'église dans leur maison. Donc je pense que c'est des gens qui faisaient des affaires, qui réussissaient plutôt bien, mais ils n'ont pas gardé pour eux. Ils ont été généreux et ils ont ouvert leur maison, pour l'église. Et on le retrouve comme ça. Des gens qui, matériellement, vraiment, étaient déterminants pour l'église. Puis à Éphèse, il y a aussi Onésiphore. On le retrouve que dans cette lettre, mais deux fois, parce qu'il est aussi cité au début de la lettre. Et Paul dit que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup réconforté. Il n'a pas eu honte de moi quand j'étais en prison. Et voilà quelqu'un, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais il encourage. Et même quand tout le monde laisse tomber, il encourage. Il envoie un mot, il passe voir, visiter. Et ça a été un réel soutien à Paul. Et c'est important de voir ça, que ça aussi s'est mis en valeur. Paul transmet aussi les salutations de Ebulus, Pudens, Linus et Claudia, des personnes qui sont certainement avec lui et qui connaissent Timothée et qui le saluent. Mais je trouve que c'est chouette de voir ce tableau, c'est assez édifiant. Pendant longtemps, quand je lisais le Nouveau Testament, je pensais que Paul, c'était un Superman qui avait tout fait tout seul. Et en fait, il était loin d'être tout seul. Là, il y a toute une ribambelle de noms. Et encore, il y en a d'autres qui n'y sont pas, puisqu'on les trouve dans le livre des Actes ou dans les autres lettres. Une ribambelle de noms, avec en bleu des missionnaires comme lui, qui passaient, qui annonçaient l'Évangile, qui fondaient des églises et qu'on pouvait laisser sur place. Mais aussi en gris, des secrétaires, des personnes qui étaient là pour aider à structurer, moins sur le terrain, mais avec un rôle déterminant, et ces deux-là sont tous les deux des évangélistes. Et puis en vert aussi, des personnes qui sont là en support en soutien, des personnes qui n'ont pas pris un ministère à plein temps, des personnes qui continuent de travailler, d'avoir une activité, mais qui sont présentes dans leur église, qui sont présentes dans le réseau, qui se soucient de ça et qui encouragent, soit financièrement ou moralement à travers les paroles qu'ils peuvent donner. Quel beau portrait! Et malgré ça, Paul vit un moment de solitude. Un moment où il se sent seul, avec une épreuve, où il s'est retrouvé jugé avec un procès sur lequel, alors qu'il aurait voulu avoir tout ce monde-là derrière lui, il s'est trouvé seul pour faire face à ses accusateurs, pour faire face au juge. Mais il témoigne. Le Seigneur était présent. Le Seigneur l'a secouru, le Seigneur l'a fortifié, c'est-à-dire qu'il lui a donné les forces nécessaires pour tenir et pour faire entendre le message qu'il a à faire. Même dans le prétoire, il a pu témoigner de l'Évangile. Et il dit qu'il l'a délivré, sans doute la raison pour laquelle il voit qu'il est encore vivant aujourd'hui. Et il affirme sa foi, il me délivrera. Que ce soit dans cette vie ou que ce soit après la mort, dans son retour, Paul compte sur Dieu. Voilà, j'ai essayé de brosser ce tableau. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous intéresser. En tout cas, moi, plus je lis et plus je vois les connexions et que je vois les personnages qui réapparaissent à droite à gauche, plus je trouve ça génial et je trouve que les scénaristes des séries télé ont rien inventé que la narration, elle est déjà là et elle existe déjà dans le Nouveau Testament de la façon dont c'est rapporté. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui, au-delà de nous raconter cette histoire déjà intéressante, surtout quand on s'intéresse à l'histoire biblique? Ça nous enseigne déjà que l'avancée de l'Évangile, l'œuvre de la foi, c'est un travail en équipe. Derrière un homme, c'est toute une équipe qui est présente. Je l'ai dit, Paul, c'est pas un Superman solitaire. Et la vie chrétienne, c'est pas fait pour être solitaire. La vie chrétienne, c'est fait pour être vécue en église. Et on l'a vu plus largement dans un réseau d'églises. Tous ces gens, tout autour de la Méditerranée, ils se connaissent, ils travaillent ensemble. Là, on en a eu un exemple ce matin avec les flambeaux, deux églises qui collaborent, un petit exemple, mais c'est aussi comme ça que ça se passe. Et on retrouve toutes sortes de personnes sur le schéma, je l'ai mis avec des couleurs. Il y a les missionnaires qui travaillent à l'implantation avec Paul, qui sont capables d'aller dans les villes, qui sont capables de lancer des églises, qui sont capables de corriger quand l'église dévie et va pas bien. Il y a les secrétaires qui écrivent les lettres de Paul pour les envoyer, pour encourager, qui les recopient. Il n'y a pas de photocopieuse à l'époque. Donc, qui font le travail de recopie pour que les lettres circulent. Et puis, qui écrivent les écrits que nous avons aujourd'hui et qui structurent notre foi, sur laquelle se fonde notre foi. Puis, il y a ceux qui soutiennent et qui sont pas moins importants. Ceux qui ont des biens matériels et qui les partagent généreusement, qu'ils soient mobiles comme Priscille ou Aquila ou sédentaires comme Carpus, ils les mettent au service de l'œuvre. Puis il y a ceux qui soutiennent en encourageant d'une manière déterminante. Ils ne sont pas aplatants, ceux qui soutiennent, ils ne quittent pas leur vie pour courir les routes, mais ils ne sont pas moins importants. Il y a toutes sortes de personnes et il y a aussi toutes sortes de parcours. On voit ceux qui sont fidèles, qui se sont attachés depuis le début et qui, des années après, sont encore là. On voit ceux qui n'ont pas tenu, ceux qui ont été là un temps, puis qui sont partis. On voit ceux avec qui il y a eu des conflits. Travailler ensemble, même dans l'église, c'est pas toujours facile. Et parfois, ils ont pu être surmontés, comme avec Marc. Et parfois, ils n'ont pas pu être surmontés et ils restent comme une douleur, comme une blessure, comme avec Alexandre. Il y a ceux avec qui ça a tout de suite accroché, il y a ceux avec qui il a fallu du temps pour construire une relation, pour former. Et quand on voit tout ça, on voit que Paul a besoin de cette équipe. Pour son action, sans équipe, impossible d'avoir le même rayonnement. Impossible de fonder, enfin fonder, oui, mais de faire que ces églises tiennent sur la durée. Il en a besoin pour son action et il en a besoin pour lui-même. Parce que travailler en équipe, ça fait du bien. Parce que travailler en équipe, ça stimule, ça corrige, ça évite de chuter, ça permet d'être plus pertinent, d'aller plus loin. L'évangile, l'annonce de l'évangile, est un travail en équipe. Et la deuxième chose, je crois que ça nous apprend, c'est que les équipes bougent. Les équipes bougent, elles ne restent pas statiques. Il y a des gens en particulier qui partent. Et qui partent pas parce qu'ils quittent l'œuvre, mais pour continuer l'œuvre ailleurs. Et c'est la même chose d'une église. Une église n'est pas constituée l'équipe parfaite et s'appuyer dessus. Ce n'est pas rassembler des personnes comme on capitalise, comme on collectionne. Et ceux qui sont restés longtemps dans une église en sont convaincus. On voit les gens arriver et puis on les voit repartir. Une mutation professionnelle, un mariage, une embauche, un déménagement. Alors parfois, les gens partent pour de mauvaises raisons, parce qu'ils perdent de vue la priorité du royaume, parce qu'ils se refroidissent, parce qu'ils renient la foi. Mais parfois, et souvent, ils partent parce qu'ils sont appelés ailleurs, pour servir à plein temps ou non. Et c'est quelque chose qui nous invite à voir l'Église à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est pas cette pièce dans laquelle nous sommes rassemblés, ce n'est pas ce bâtiment avec les enfants qui sont à côté. L'Église est bien plus large que ça. Et l'Église, c'est un réseau. Parfois, les besoins sont à côté de nous, dans l'Église d'à côté. Et la troisième chose que ça nous apprend, c'est que le Seigneur est là. Je crois que quand on considère l'Église comme étant plus large, ça nous invite à mieux comprendre Dieu. Il n'est pas notre Dieu, celui qui nous appartient. Il est bien plus grand. C'est à lui qu'appartiennent ce réseau d'églises dont nous sommes une petite partie. Et Dieu aime son Église. Il s'occupe d'elle. Et tel un DRH moderne, il nomme, il mute, il déplace, il fait tourner selon les besoins. On pense que c'est le hasard, on pense que ce sont les projets personnels qui font que les gens bougent et passent d'une église à l'autre. Mais nous croyons, nous chantons dimanche après dimanche que Dieu contrôle toutes choses, qu'il est tout puissant. Chaque fois que des personnes bougent, c'est lui qui les fait bouger avec le plan qu'il a pour son église. Il forme un tel ici pour l'envoyer ailleurs. Il brasse et fait circuler pour construire la culture de son Église. C'est lui le grand patron. Nous sommes à son service, à sa disposition pour aller là où il nous envoie. Même si ça nous appelle parfois à vivre l'inconfort, la mobilité. Il est présent en tant que superviseur, que tête de son Église. Mais il est présent aussi de manière personnelle pour ses serviteurs. Paul a pu en faire le constat, il le dit au milieu de ce texte. Il était seul, mais le Seigneur était avec lui. Il était présent et il l'a fortifié d'une manière réelle. C'est la présence du Seigneur. Ce n'étaient pas ses amis, ils n'étaient pas là. C'est lui qui lui a donné les forces pour affronter ses juges et pour continuer. Dieu est présent avec ses serviteurs. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces enseignements ? Avec quoi est-ce que nous pouvons partir? Avec quoi est-ce que nous pouvons méditer pour cette semaine et pour les temps à venir? Je crois que ce texte, un peu difficile, parce qu'il parle de noms qu'on ne connaît pas, ça demande un peu de culture, un peu de travail pour essayer de comprendre qui sont tous ces gens. Mais ce texte nous amène à prendre conscience de ce qu'est la réalité de l'Église au niveau global. De ce que c'est pas quelques-uns, des leaders, un pasteur, une église pyramidale, mais que c'est un réseau. Et au niveau local, je pourrais faire une liste de noms, je pourrais pas, j'ai la peur de gêner, la peur d'oublier, la peur de froisser, mais je pourrais faire une liste de noms qui montrent combien on travaille en équipe avec les personnes qui sont là dans l'action, les personnes qui sont là dans le ministère de la parole, les personnes qui sont là dans le soutien. Cette église est l'œuvre d'une équipe qui se déploie dans le temps. Une succession de pasteurs, de ministères dans le temps. Un ensemble de personnes qui travaillent ensemble aujourd'hui. Du coup, ça me fait penser à nos discussions sur le deuxième ministère. Paul montre l'intérêt qu'il y a à travailler à plusieurs. Il en a bénéficié. C'est ce qu'il a construit. C'est avec ça qu'il a pu faire son travail. Prendre conscience également de la diversité des besoins. Il y a besoin de ministères à plein temps et comme de bénévoles. Il y a besoin de l'action en première ligne dans l'annonce de l'Évangile. Il y a besoin de personnes plus discrètement sur des tâches en arrière. Hier, la rédaction d'écrits à faire passer aux églises. Aujourd'hui, dans l'organisation, au service de l'Église. Il y a besoin de prendre du temps pour former, prêcher, enseigner les enfants, accueillir dans les groupes de maison et accompagner. Il y a besoin de soutien financier, moral. Il y a la nécessité d'avoir tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. L'équipe. Travailler en équipe, c'est la volonté de Dieu. Et c'est un appel. Dieu a pour tout le monde un appel, pas seulement pour le salut, pas seulement pour être réconcilié avec lui, mais aussi pour passer à l'œuvre, pour travailler avec lui, pour avoir le plaisir de voir son travail avancer. Et du coup, pour nous, ça nous invite, je crois, à faire le point. S'il peut y avoir toutes sortes de façons de participer et qu'il y a des besoins pour tout le monde, où en sommes-nous personnellement? Où en êtes-vous, chacun d'entre vous? Est-ce que je suis fidèle à l'engagement que j'ai pris, à la disposition de l'équipe et de ses leaders, à la disposition du Seigneur s'il m'envoie ailleurs dans un autre lieu pour une autre tâche? Est-ce que je suis en retrait? Dans une situation où j'ai pris de la distance avec le service, avec la mise à disposition de mes dons. Comme Démas, avec l'attrait du monde qui est difficile à gérer, qui a amené à faire des compromis, prendre des distances. Ou alors, comme Trophime, qui est malade. Il aimerait bien être là, mais il est empêché, son état actuel l'empêche d'être aussi actif qu'il voudrait. Je suis fidèle en retrait, est-ce que je suis en opposition? Comme Alexandre, après toutes ces années, a toujours buté, résisté, combattre. Est-ce que je suis à l'extérieur? Est-ce que vous ne vous considérez pas comme chrétien? Et j'aimerais vous dire qu'il y a une invitation à rejoindre l'équipe. C'est un bonheur de participer à la construction d'une œuvre qui dure. C'est la même œuvre commencée par Paul avec tous ces noms que nous avons vus. C'est la même qui continue aujourd'hui et qui continuera encore jusqu'au retour de Jésus-Christ. Une œuvre bénie par Dieu, il y a de la joie à y travailler. Et le bonheur de suivre le Seigneur, lui, il ne laisse jamais tomber ce qu'il aime. Même lorsque, quand il se retourne, il n'y a plus personne derrière eux. J'aimerais vous laisser avec cette interrogation. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je vais prier pour mes frères et sœurs, je vais prier pour chacun d'entre nous. J'aimerais te prier qu'en ce temps, tu nous accompagnes là où nous sommes, là où en est chacun. J'aimerais te prier pour ceux qui sont fidèles dans la tâche. J'aimerais te prier pour eux parce que parfois c'est lourd, parfois c'est difficile, comme en témoigne Paul dans cette lettre. J'aimerais te prier, Seigneur, que comme Paul, tu les fortifies, qu'ils puissent voir ta présence, que tu renouvelles leur foi en toi. Merci, Seigneur, de nous accompagner et d'être à nos côtés alors que nous travaillons pour toi, avec toi. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont actuellement en retrait, qui s'étaient engagés et qui ont pris du recul. J'aimerais te prier pour ceux qui le font parce qu'ils sont diminués. J'aimerais te prier que tu les restaures dans leur santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, psychique. Que tu viennes réparer les blessures. Qu'ils puissent reprendre le travail avec toi comme ils le souhaitent. Je prie aussi pour ceux qui sont en retrait parce que le monde attire. Nous sommes tous tentés, Seigneur. Fortifie-nous en toi. Aide-nous, aide-les à retrouver la radicalité que nous avons confessée lorsque nous nous sommes fait baptiser. Mourir à nous-mêmes pour vivre. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui sont en opposition. Et Seigneur, tu es capable de tout, tu es capable de miracles. Et comme Paul l'a fait, j'aimerais te prier que tu prennes les choses en main. Là où les initiatives humaines ne produisent plus de fruits. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui n'ont pas rejoint l'équipe et qui sont interpellés, à qui ça fait envie. J'aimerais te prier par ton esprit que tu fasses tomber les craintes et qu'ils puissent te dire, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je veux que tu sois Seigneur de ma vie et je veux te servir comme tu le demandes. Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous construises en Église, tu nous construises, nous, cette assemblée, mais que tu nous construises aussi avec les autres. Et j'aimerais te prier que cette construction te rende gloire à toi, qui es la tête de ton Église. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire.